Donc voilà, je suis Jérôme Kiffer et je vais vous parler de programmation de GPU, donc de cartes graphiques, en utilisant PiOpenCL. Vous avez le résumé de la présentation l'ordre du jour. Donc on va commencer par la comparaison des processeurs CPU, donc les processeurs des ordinateurs et les processeurs des cartes graphiques. Et en fait, si on prend, alors j'ai fait ce tableau à la fin de l'année dernière. Depuis, forcément, il y a eu des nouveautés. Donc là, on a un processeur Epic Rome de chez AMD, le plus haut de gamme qui existe, qui a 64 cores. Et si on compare avec le haut de gamme, pareil, de chez Nvidia du début de l'année, c'est la Tesla GV100, donc génération Volta. Qui elle a 80 cœurs équivalents, enfin streaming multiprocessor. Et donc c'est intéressant de voir que ces deux morceaux de silicium qui sont à peu près dans les mêmes gammes de prix, ça vaut 8-10 000 euros. On a le nombre de cœurs, alors là c'est avantage au GPU, il y a plus de cœurs. Le CPU, lui, il a une cache L3, ce que le GPU n'a pas. Et en fait, on voit que c'est assez semblable. Donc, pour la bande passante, on a avantage au GPU avec ses 900 Go, c'est la mémoire HMB2 qui est très rapide. Par contre, le GPU, lui, il souffre d'être derrière un bus qui permet d'accéder au CPU. Et si on est sur du PCI Express, on est limité à 12-15 Go par seconde. Et là, avec du NVLink sur la Tesla GV100 sur architecture Core 9, on est à 75 Go par seconde. Et au niveau des capacités de calcul, en fait, ce sont des machines qui utilisent beaucoup les instructions vectorielles. Et donc, chaque streaming multiprocesseur du Tesla V100 est capable d'ordonnancer, on va dire, deux calculs par cycle d'horloge qui vont s'exécuter sur à chaque fois un warp, c'est-à-dire 32 threads adjacents. Côté CPU, on a un mécanisme qui est assez semblable avec deux unités AVX, AVX2 si on veut être précis, par core, et chacune qui effectue 8 calculs en flottant en simple précision. Donc, pour faire simple, les CPU aujourd'hui sont plus rapides que les GPU. Les CPU tournent typiquement à 3 GHz contre 1 ou 1,5 pour les GPU. Et alors, je ne l'ai pas mis en évidence dans ce tableau, mais la latence mémoire pour accéder aux données sur un CPU est à peu près 2 fois plus faible que sur un GPU. D'un autre côté, les GPU ont plus de puissance de calcul pure et ont une bande passante d'accès aux données qui est plus large. Donc voilà, ça se contrebalance. Mais on est dans un facteur 1 à 4 au maximum. Donc il faut pas imaginer que les GPU sont 100 ou 500 fois plus rapides que les CPU. C'est pas vrai. Et en fait, la difficulté pour les CPU aujourd'hui, c'est plutôt d'être capable d'exploiter les 64 cores et les deux unités vectorielles qui sont dans chacun des cores pour réussir à faire tourner le code sur CPU rapidement. Alors, on voit finalement que le CPU et le GPU sont assez proches. Et l'idée, c'était d'utiliser le même mécanisme pour les programmer, les deux. Et donc là, je vous présente un peu OpenCL. OpenCL, en fait, c'est un langage de programmation qui a été inventé par Apple en 2008, donc ça lui fait 12-13 ans. C'est géré par le groupe Chronos. Aujourd'hui, on est à la version OpenCL 3. Et ça a été développé pour programmer sur CPU, sur GPU, sur FPGA et sur même d'autres types d'accélérateurs. Leur spécificité, c'est que ce sont des systèmes massivement parallèles. Alors, OpenCL a certaines spécificités. Il y a une séparation stricte entre le code qui tourne sur, on va dire, le host, c'est-à-dire celui qui contrôle l'exécution, et là où le code est exécuté, c'est-à-dire les devices. C'est ce qui est exécuté sur les devices. On appelle ça des kernels ou des noyaux d'exécution. Alors, je m'excuse, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais d'habitude, je travaille entièrement en anglais, donc j'ai un peu du mal à trouver les mots en français. Donc les noyaux sont écrits, donc c'est des petits bouts de programme, sont écrits en C99, en OpenCL. Alors c'est une version de C99 qui est beaucoup simplifiée, il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas de récursivité. Et une des spécificités, c'est que c'est compilé à l'exécution, enfin au runtime. Donc comme le code côté host, à la base, c'est que du C. C'est très facile de faire des bindings et d'y accéder depuis plein de langages de programmation. Et l'évolution de OpenCL aujourd'hui, c'est un système qui s'appelle Cycle, qui est surtout poussé par Intel. Donc Cycle, c'est un peu comme OpenCL, c'est basé sur OpenCL, mais c'est que du C++. Et on a le code host et le code device qui sont mélangés dans le même code source, un peu comme ce qui est fait dans CUDA. Et une chose intéressante, c'est que pour OpenCL 1.2, on a une traduction directe des kernels CUDA en kernel OpenCL et vice-versa. Donc on a un matching parfait. Et donc si on connaît OpenCL, on connaît CUDA et vice-versa. Donc, je vous ai parlé de kernel, je vous dis que c'était un petit bout de code qui tournait sur le device. Alors, je vais prendre un petit exemple tout bête. Alors, je l'ai écrit en Python parce que c'est peut-être le langage de programmation que je maîtrise le mieux. Et en fait, là, j'importe NumPy, je crée deux tableaux A et B qui font chacun 1000 éléments. Et je crée un tableau de résultats. Et ensuite, j'itère par une boucle sur ce tableau. Et je calcule le résultat pour chaque index, qui est la somme des tableaux A et B aux index correspondants. Ce n'est pas du code vectorisé comme il faudrait faire avec NumPy, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc ça, on va imaginer que ça, c'est le bout de calcul qu'on veut faire. Et en fait, le kernel, ça correspond à uniquement cette ligne-là. Oups. Exécute. Voilà, donc le noyau, c'est la ligne reste de index égale A2 index plus B2 index. La taille du problème, c'est la variable size. Et elle est précisée donc à l'exécution. Et la position des index sur un kernel qui va s'exécuter sur un GPU va être obtenue par des appels à des fonctions spécifiques de OpenCL. Donc, je vais vous parler de PyOpenCL, mais en fait, PyOpenCL, c'est un tout petit, enfin, c'est une façon de programmer les GPU, et il y en a beaucoup qui existent. Alors, la plus connue, c'est sans doute CUDA. Alors, pour chacune des façons de programmer les GPU, il y a une partie de code qui s'exécute forcément sur l'ordinateur à proprement parler, avec du code host. Donc, pour CUDA, c'est écrit en C++. Les kernels, eux aussi, sont écrits en C++ et ils sont mélangés dans le même code source avec une compilation avant l'exécution. Et par contre, on ne peut accéder qu'au GPU de NVIDIA. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives de faire tourner du code CUDA sur des CPU, mais ça ne marche pas très très bien. Il y a des tentatives pour faire tourner du code CUDA sur des GPU autres que NVIDIA, mais je ne crois pas que ça marche très bien non plus. Donc c'est un petit peu un problème, c'est qu'on a un lock-in sur un seul vendeur de matériel. OpenCL, en tout cas dans la version de base qui a été pensée par Apple dans les années 2008-2010, c'était du C avec des kernels écrits en C. Et une compilation just in time ou at runtime, je ne vais pas faire de distinction là-dessus, avec l'idée de pouvoir s'adresser à des CPU, des GPU, des FPGA. Donc le même code s'exécute sur tout ce hardware sans distinction. Et donc je vous ai dit que Cycle, c'était la suite de OpenCL, où en fait ils ont repris les idées de CUDA, ils se sont dit on va mettre du C++ au niveau du host, du C++ au niveau du kernel, on va compiler avant l'exécution, et finalement le seul avantage qu'on garde c'est qu'on peut faire tourner le code sur CPU, sur FPGA et ainsi de suite. Alors, moi je suis pas spécialement fan de la compilation ahead of time. Alors, il y a deux projets que je voudrais vous présenter. Donc, Picuda et puis OpenCL, ils sont tous les deux faits par Andreas Klöckner et quelques collaborateurs aux États-Unis. Et donc Andreas Klöckner, qui est celui qui a inventé ces deux bindings pour GPU en Python, c'est un chercheur et il fait pas mal de métaprogrammation. Et donc moi, ce qui m'intéresse de vous présenter, c'est l'aspect métaprogramming dans Picuda et puis OpenCL. Donc la différence entre Picuda et puis OpenCL, c'est que ben, il y en a un qui a les kernels écrits en C++, l'autre en C. Donc ça fait vraiment pas une grosse différence. Et l'avantage pour puis OpenCL, c'est qu'on peut tourner sur CPU, GPU, FPGA. Alors j'ai vu que Julia avait une interface unifiée pour accéder au GPU, qui permet de faire tourner les kernels sur GPU NVIDIA et sur GPU AMD. Ça a l'air assez intéressant, mais bon, je ne maîtrise pas bien Julia. Donc voilà, je sais que ça existe, mais ne posez pas de questions là-dessus. Il y a deux autres projets qu'il faut mentionner. Le premier, c'est Numba CUDA. Alors Numba, c'est un compilateur just-in-time en Python. Pour le Python numérique, c'est assez différent de PyPy. Donc c'est le Python numérique, c'est du Python avec beaucoup de NumPy dedans. Et l'idée de Numba, c'est d'écrire des kernels numériques et de les compiler just-in-time, donc avec un compilateur LLVM, et de faire exécuter ça. Et donc Numba CUDA, en fait, il reprend la même idée. Et une fois que la représentation intermédiaire de LLVM est obtenue, on va faire exécuter le code, enfin on va traduire le code non pas en assembleur x86 ou assembleur pour CPU, on va le transformer en PTX pour le faire tourner sur des GPU NVIDIA. Donc ça c'est un truc qui est assez intéressant. J'ai un peu pratiqué et je dois dire que j'ai été surpris. Et décontenancé par le fait d'écrire des kernels en Python. Autant j'écris beaucoup de Python, autant écrire les kernels en Python, j'ai trouvé ça pas très naturel. Mais bon, c'est une initiative qui est intéressante. Et il y a un autre projet qui s'appelle CuPy. Et CuPy, l'idée, c'est vraiment de remplacer NumPy ou SciPy par CuPy. Et donc, quand on fait CuPy.sign d'un nombre, en fait, on va appeler la fonction sinus du GPU. Et dans CuPy, il y a un peu de métaprogramming pour les réductions. Et CuPy permet aussi d'écrire ses kernels directement soi-même à la main. Et ça, c'est assez intéressant pour les performances. Comme c'est CUDA, c'est NVIDIA, et donc on est limité à un seul fabricant. Donc moi, je vais vous présenter PyOpenCL. C'est le côté ça tourne partout qui me plaît beaucoup. Et ça fait 10 ans que je pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que PyOpenCL? Ben, on expose toute l'API de OpenCL, tout exposé. On a nos noyaux qui sont explicites en C99. On a la gestion de mémoire qui est explicite. On a la gestion des périphériques sur lesquels on fait tourner qui est explicite avec une gestion de contexte. On a les exécutions qui sont asynchrones, comme pour ceux qui font du CUDA, c'est la même chose. On peut accéder au kernel qui s'exécute via des événements et on peut mettre en queue ces événements et ainsi de suite. La compilation se fait donc à la volée. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, le driver OpenCL doit contenir le compilateur. Donc, on n'a pas de compilation ahead of time. Il semblerait qu'en fait CUDA ait beaucoup de succès auprès des industriels parce que la compilation ahead of time permet de en fait cacher le code source, alors que en tout ce qui est OpenCL, souvent le code source il est directement lisible et un certain nombre d'entreprises apprécient pas trop de voir leur code source GPU, qui est souvent critique d'un point de vue performance, qui soit exposé. Et comme l'auteur de PyOpenCL est un gourou de métaprogrammation, il a exposé plein d'algorithmes avancés en OpenCL, et c'est une des fonctionnalités uniques, quoi. Et finalement, il y a une intégration dans Jupyter Notebook. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui font leur prototypage ou leurs calculs dans des notebooks Jupyter, et donc je vais vous présenter ça aussi au cours de cet exposé. Donc, Ben, l'intégration, on a un load ext de PyOpenCL et ensuite on charge PyOpenCL depuis des. Donc là, je suis dans un environnement Jupyter et donc là, j'ai chargé l'environnement OpenCL. On va voir dans un instant comment on s'en sert, mais avant ça, il nous faut créer un contexte. Je dis que la création de contexte était explicite. Donc, dans cette ligne, on crée explicitement un contexte qui va être en fait un moyen d'accéder à notre périphérique. Donc là, on va tourner sur des GPU. Et on va aussi créer une file d'exécution, une command queue. Et donc, je lui ai dit d'être en mode explicitement interactif. Et donc, PyOpenCL a introspecté mon système et me dit que j'ai quatre plateformes qui sont disponibles. Donc, POCL, Portable CL. Donc, ça, c'est une version open source de OpenCL. On a NVIDIA CUDA. On a un GPU AMD et un driver Intel pour processeur. Donc je vais vous prendre le NVIDIA. Et en fait, comme j'ai deux GPU NVIDIA sur la machine, il me propose lequel je veux utiliser. Donc là, je choisis. Et donc voilà, donc maintenant j'ai mon contexte qui pointe sur le GPU NVIDIA, la GeForce 750 Ti. Je vois qu'on a des questions. Alors, il y a une question au niveau des performances. Alors, NVIDIA peut facilement dire que leur code est moins optimisé que CUDA. Après, La chaîne de compilation, c'est on va prendre un petit bout de code dans un instant. Ce bout de code va être transformé en représentation intermédiaire par LLVM, qui va sortir la représentation intermédiaire de OpenCL. Aujourd'hui, elle s'appelle Spire V. C'est en fait un snapshot de la représentation intermédiaire de LLVM. Et ce Spire V va être traduit en assembleur pour GPU NVIDIA. Là, on travaille sur un GPU NVIDIA. Et donc, cet assembleur s'appelle le PTX. Et cet assembleur, il est en texte et on peut regarder le contenu. Donc, si l'assembleur si on peut comparer l'assembleur avec l'assembleur elle-même, il n'y a pas de raison pour que le code tourne moins bien s'il vient de OpenCL, qui vient de Numba CUDA, qui viennent de PyCUDA. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question.
Il y avait aussi une question de Sergei sur OpenCL.
Oui, tout à fait. Donc OpenCL tourne sur GPU Intel. Alors moi j'ai un portable, un MacBook, et donc depuis aujourd'hui ils en sont à la génération 10 ou 11 de processeurs Core, mais depuis la troisième génération, donc depuis les Core i3000 quelque chose, il y avait un driver pour les i3000 et 4000 qui s'appelait Beignet sous Linux, et pour les Skylake et plus récents, il y a un nouveau driver qui j'ai oublié son nom parce que j'ai pas de machine qui tourne avec, mais OpenCL tourne aussi dessus. Donc, merci. Oui, OpenCL HD Graphics, c'est tout à fait la carte intégrée Intel.
Oui, merci. Peut-être laisse répondre à la dernière question avant de poursuivre un peu. Puis
Est-ce qu'on peut créer plusieurs contextes? Absolument, on peut créer plusieurs contextes et on peut créer plusieurs command queues pour entrelacer par exemple les entrées-sorties et les calculs. Donc typiquement, on va créer un contexte, deux ou trois files d'exécution pour entrelacer donc les entrées-sorties en entrée, en sortie et en calcul. Et donc voilà, c'est typiquement ce qu'on va faire. Et donc il est tout à fait possible d'avoir plusieurs contextes et plusieurs files d'exécution. Il ne faut juste pas s'en mêler les pinceaux quand on quand on écrit son code. Bon, je vais continuer un petit peu. Donc, avant de pouvoir faire le premier calcul, faut savoir que les GPU, ça aime bien travailler. On a vu que ça avait une grosse puissance de calcul, mais ça avait aussi des latences assez élevées. Et donc, il faut leur donner des gros volumes de données. Donc là, on va travailler sur un volume de données qui est de 64 mégaoctets. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer les tableaux. Donc, sur ces deux lignes-là, je crée mon tableau de flow de 32. Ici, j'ai 2 puissance 24 en taille. Ça fait 16 millions d'éléments. Donc, 16 millions fois 4, c'est la taille d'un float 32. Ça fait normalement 64 mégas de... Voilà. Et je calcule mon résultat de référence. Je vais juste faire l'addition de A plus B. Et sur ces lignes-là, je vais envoyer... Donc, CLA, c'est popencl.array. Et j'envoie tout device, donc j'envoie mon tableau NumPy sur le device en utilisant ma file d'exécution. Donc A underscore D et B underscore D. Donc le underscore D, ça indique que c'est le tableau A, mais au niveau du périphérique. Et pareil, je prépare un buffer d'arrivée de la même façon. Donc je vois que mes données font effectivement 64 mégas. Et mon tableau d'arrivée a été mis à zéro. Suivant le driver, c'est pas obligé qu'il soit mis à zéro. Je crois qu'avec le driver AMD, par exemple, ils ne sont pas mis à zéro. Et ça, c'est un détail d'implémentation, on va dire. NVIDIA est gentil, il nous a mis les valeurs à zéro. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé de kernel. Donc, le noyau d'exécution, c'est une fonction qui ne retourne rien. C'est une void function en C. Et qui est déclaré avec un mot-clé supplémentaire qui est kernel. Donc c'est kernel void, comme ceci. Et voilà. Et donc dans popencl, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un 100% CL kernel. Et donc à partir de ce moment, là on a du magic ePython ou Jupyter qui va nous dire que cette cellule contient du code OpenCL. Et ce qui est assez fort, c'est que quand j'exécute la cellule. La cellule, en fait, il voit que c'est de l'OpenCL, il prend ce code, il le compile et il le rend disponible directement dans l'interpréteur Python. Donc, une petite difficulté, c'est que l'index, on l'obtient par une fonction spéciale qui s'appelle getGlobalID et qui me permet de récupérer la position du travailleur. Et donc, le travailleur, donc, là, c'est suivant la dimension 0. On a un système à trois dimensions, mais ce n'est pas vraiment le cœur du problème. Et là, on voit qu'on a un tableau, un pointeur vers un tableau de flottant. Et le mot-clé global ici, il sert à indiquer que c'est la mémoire du device. Donc il y a plusieurs types de mémoire dans les devices de OpenCL. Je ne vais pas tous vous expliquer parce que c'est la même chose qu'avec CUDA, on a des mémoires du GPU, des mémoires qui sont situées en cache L2 du GPU, qui sont appelées mémoires shared, et un certain nombre de registres. Donc ça c'est la mémoire du GPU. Ça veut pas. Réexécuter. Voilà. Donc l'intégration avec Jupyter, on a vu donc ce mot-clé, ce magique, 100% c'est le kernel. Donc à partir de ce moment-là, toute la cellule devient du C. Le code est compilé à l'exécution quand on exécute la cellule et c'est directement accessible dans Python. Donc je reprends mon kernel. Et donc pour exécuter le kernel, il suffit que je l'appelle. Donc j'ai mon A ici qui est le nom de mon kernel. Là, sur cette deuxième ligne, je donne la signature, j'utilise la signature du kernel, donc A, B et Res. Donc le point data, c'est le pointeur attaché à l'objet A underscore D. Donc ça doit correspondre à la signature du kernel. Et avant ça, j'ai trois autres paramètres. Le premier, c'est la file d'exécution. Le deuxième, c'est la taille de mon problème, donc shape. Et le troisième, c'est en fait par combien on veut regrouper le travail pour qu'il soit fait. Et en fait, puis OpenCL, on peut lui dire, bah écoute, tu te débrouilles, tu me trouves quelque chose qui va bien. Et donc là, je lui dis, donc juste, j'ai combien 16 millions de 16 millions d'éléments à additionner. Donc ça, je lui donne ça. Et il se débrouille pour répartir ça. Et quand j'exécute ça, il me rend un événement qui est en fait mon contrôle sur le processing qui est en train de s'effectuer. Donc, pour récupérer le résultat, donc j'ai mon tableau res underscore d et je peux récupérer sa valeur avec get. Et donc, si je compare les résultats faits avec NumPy sur CPU et les résultats exécutés sur le GPU, bah c'est voilà, on a obtenu la même chose. Donc c'est le premier kernel exécuté. Donc comme on parle de calcul ou de performance, il y a des outils de profiling qui sont intégrés dans PyOpenCL et dans OpenCL. Donc en fait, chaque événement contient un attribut profile et qui contient le tick en nanosecondes de fin d'exécution et de début d'exécution, ce qui nous permet de mesurer le temps d'exécution avec une précision de la nanoseconde. Donc comme ça, on peut comparer le temps d'exécution. Donc sur GPU, là on est à 3 millisecondes, et sur CPU, j'utilise la fonction magique de Jupyter qui est timeit, et donc l'addition de ce tableau prend 12 millisecondes sur ma machine. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles questions ?
Oui. Pierre qui demande en dernier, là, peut-on appeler des librairies externes depuis le kernel ?
Alors, il y a assez peu de librairies, de bibliothèques externes. En fait, nous, on a commencé à développer des bibliothèques externes dans le cadre du projet Silex et dans PyFi aussi. Et en fait, vu que c'est compilé just in time, il faut vraiment fournir le code source. Donc en fait, les bibliothèques, elles sont disponibles en code source. On trouve très 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 peu de bibliothèques de code OpenCL pour les utiliser comme ça. Sinon, il y a une autre façon, c'est si on prend l'initiative d'AMD qui a rendu public toutes ces bibliothèques de calcul de performance, donc les BLAS, les FFT et ainsi de suite. Et donc ça, ils font pareil, ils font de la métaprogrammation, mais eux, ils le font en C++. Et donc, eux, ils rendent directement le kernel disponible. C'est-à-dire que depuis Python, on va avoir accès au kernel, et par contre, on n'aura pas accès au code source. Donc, en niveau des bibliothèques externes, on peut citer CLBLAS, CLFFT, il y a CLRAND pour la génération de nombres aléatoires. Et c'est surtout AMD qui a fait un gros travail là-dessus pour rendre tout disponible. Voilà. Donc, je vous ai rapidement introduit OpenCL. J'ai passé pas mal de petits détails techniques qui peuvent être ennuyants, mais parce qu'en fait, l'idée, c'était de présenter les patrons de conception pour la programmation parallèle. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Et le fait de les connaître permet de se sortir de pas mal de problèmes et surtout d'être capable d'utiliser la programmation sur GPU sur une gamme de problèmes beaucoup plus étendue. Et donc, ça fait que la programmation sur GPU devient intéressante parce que faire A plus B, ça fait 10-15 ans qu'on sait le faire sur GPU, mais ça a un intérêt assez limité. Donc, il y a des gens qui ont commencé à classer les programmes parallèles et à essayer de les grouper en catégories. Donc, c'est les design patterns. Et donc, il y a le map, c'est-à-dire, ou element-wise, c'est ce qu'on a vu avec le kernel add, c'est-à-dire que chaque travailleur va travailler sur un élément à la fois. Le gazer ou le stencil, c'est un élément qui va travailler sur plusieurs. Par exemple, quand on fait une convolution, l'élément de sortie, ça va être l'agrégation de, par exemple, la somme d'un certain nombre de voisins. Alors, le scatter, c'est exactement le contraire du gather, c'est-à-dire que pour un travailleur, il ne sait pas où il va écrire. Et en fait, le scatter, c'est quelque chose d'assez compliqué d'un point de vue non pas conceptuel, mais d'un point de vue mise en œuvre. Et ça nécessite l'utilisation des opérations atomiques. Et les GPU ont vu très rapidement l'apparition de ces opérations atomiques parce que, où en fait, quand on écrit à un endroit, on peut être sûr qu'il n'y a pas conflit d'écriture parce que les GPU, on a vu, on a 80 cœurs et chacun de ces cœurs a 64 threads qui travaillent en parallèle. Et donc, on a des risques de conflit d'écriture qui sont vraiment réels. Donc, les opérations atomiques existent, elles sont très efficaces sur GPU, mais c'est mieux si on peut s'en passer. Ensuite, on a un pattern qui est la réduction. La réduction, par exemple, c'est faire la somme de tous les éléments dans un tableau. Et ça, c'est un pattern qu'on retrouve très facilement. Par exemple, pour calculer la moyenne, on fait la somme de tous les éléments et on divise par le nombre d'éléments, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas réservé à la somme. Il suffit juste, il faut que l'opération qu'on considère soit commutative. Le scan, c'est un peu, c'est aussi appelé préfixe sum, et dans NumPy, c'est la fonction comSum. Donc en fait, pour chaque élément, on a la somme de tous les éléments précédents. Alors ça, si on y réfléchit bien, c'est assez compliqué à faire en parallèle, et c'est très puissant parce que ça permet de faire des algorithmes de compression ou de compaction de données. On a un certain nombre d'algorithmes de tri qui sont aussi très adaptés au calcul parallèle. C'est par exemple le Bittonic Sort. Et puis bon, il y en a encore quelques-uns, mais c'est donc l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer que ces patterns existent et en fait, ils peuvent être assez compliqués, on va le voir, mais il faut juste savoir comment. Enfin, c'est le principe des patrons de conception. On a un problème, on va utiliser le bout de code et en fait, PyOpenCL va nous générer les noyaux pour nous si on en a besoin. Donc, comme je l'ai dit, à part le map, donc element-wise operation, tous les autres kernels demandent plusieurs dizaines ou centaines de lignes de code et c'est pas très amusant à écrire. Donc voilà, PyOpenCL vous rend la vie plus facile. Alors, un element-wise kernel, c'est pas très très intéressant, mais néanmoins, on va apprendre à servir de l'outil de métaprogrammation de PyOpenCL basé là-dessus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On importe element-wise kernel de la bibliothèque PyOpenCL. Et en fait, c'est une classe qu'on instancie avec le contexte. On donne la signature qu'on veut avoir pour le kernel et l'opération à réaliser. C'est pas très très compliqué. Donc avant de s'en servir, là je vais réinitialiser mon tableau de résultats et puis appeler le noyau que j'ai appelé tadd pour templated add et vérifier que le résultat fonctionne correctement. Et on voit que le temps d'exécution il est à peu près similaire à ce que j'avais tout à l'heure. Le element-wise, comme ça, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai découvert il y a 2 jours que ça pouvait être très pratique pour réaliser des tests unitaires sur des bouts de code. C'est le seul usage que j'en ai vu. C'est la première fois que je m'en sers vraiment, c'est pour réaliser des tests unitaires. En fait, cet exemple est tellement trivial qu'en fait, il suffit de faire A.D plus B.D égale à un résultat que en fait PyOpenCL reconnaît directement l'opération plus, va générer le kernel et exécuter le kernel et là c'est encore plus rapide. Je vais peut-être répondre à quelques questions. Y a-t-il une estimation du taux du temps de transfert des données? Alors oui, tout à fait. Ça va dépendre de l'architecture de votre ordinateur. Et si vous avez du PCI Express 3, ce qui est quand même la majorité des cas, vous et que votre carte graphique, elle est interconnectée sur un bus 16X, Vous êtes entre la limite théorique est à 16 gigaoctets par seconde et vous êtes typiquement vers 12 gigaoctets par seconde en bande passante. Si vous utilisez donc les GPU intégrés de Intel, là en fait il suffit de passer le pointeur vu que c'est la même mémoire qu'on utilise. Le temps de transfert est à peu près instantané, donc puisqu'il n'y a pas de transfert. Et donc il y a des nous on utilise des systèmes IBM Power 9 avec un bus spécifique NVLink où on a 75 gigaoctets par seconde de bande passante entre le CPU et le GPU. Donc voilà, le temps de transfert dépend de la vitesse du bus, voilà. Et ensuite on a des latences au niveau de l'exécution et de la mise en queue. Il y a un petit utilitaire qui s'appelle CLPIC qu'on peut lancer qui donne les bandes passantes et les latences pour les exécutions. Et les latences, typiquement, c'est l'ordre de la microseconde, 7 ou 10 microsecondes de temps de latence. Donc je vais venir au premier vrai exemple de patron de conception un peu costaud, c'est la réduction. Donc typiquement, si on veut calculer la somme de tous les éléments d'un tableau. Donc ça, si vous avez... Voilà, c'est la première fois où on se rend compte qu'en fait, si on veut faire la somme de tous les éléments d'un tableau, soit on prend le premier élément, rajoute le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Mais là, on va voir qu'on n'exploite absolument pas le parallélisme du GPU. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que chaque travailleur va travailler sur, par exemple, le travailleur 0 va travailler sur l'élément numéro 0 et l'élément 0 plus la taille du groupe, donc plus 16 ici, il va faire la somme. Et ensuite, on va faire la même chose, on va travailler entre 0 et 8 et rajouter donc l'élément 0 et l'élément 8, et on le rajoute dans l'élément 0, et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment-là, les travailleurs entre 8 et 16 ne font plus rien. Ici, entre les travailleurs 4 et 16, ils ne font plus rien, et ainsi de suite. Donc on a de moins en moins de travailleurs qui font quelque chose, mais un résultat qui est de plus en plus conséquent. Et à la fin, il ne nous reste qu'une seule valeur, qui est la somme de tout ce qu'on avait auparavant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réduction. On voit bien que la quantité de travail qui reste à faire, elle se réduit petit à petit. Et pour pas juste faire simplement la somme de tous les éléments d'un tableau, je vous proposais de faire un produit scalaire qui est en fait la somme de tous les éléments d'un tableau multiplié par les éléments d'un autre tableau. Donc, comme j'ai dit, les réductions ne sont pas limitées aux additions. En fait, n'importe quelle opération commutative est utilisable. Donc, la multiplication, un min, un max, et on peut l'utiliser pour calculer par exemple une moyenne et une déviation standard en une seule passe. Bon, les additions ne sont pas strictement commutatives avec des nombres flottants, mais on va passer ça. Et donc, si on regarde comment est-ce qu'on écrit un reduction kernel, pareil, on importe depuis OpenCL le reduction kernel. On lui dit qu'on va travailler sur des floats 32, que l'élément neutre c'est 0, qu'on fait A plus B pour la partie réduction, et pour la partie mapping, on charge le tableau A de I fois B de I. Donc ça, c'est comme ça qu'on va définir notre produit scalaire, dot product. Et donc si on exécute ça, on voit que le résultat, en fait, il n'est pas correct en 32 bits parce qu'en fait, l'ordre des opérations, elle n'est pas tout à fait la même. Et en fait, la précision qu'on obtient, elle est même meilleure puisqu'elle est correcte si on fait la comparaison avec NumPy en 64 bits, ce qui est assez surprenant. Donc les résultats sont corrects, sont même plus corrects que NumPy en utilisant que du calcul 32 bits. Et si on regarde les performances, donc on est à 2 millisecondes sur le GPU. Donc c'est un petit GPU qui a 5 ans, hein. C'est un GPU qui consomme 60 watts, qui valait 100 ou 100, 120 euros il y a 5 ans. C'est pas un foudre de guerre. Et on voit que c'est nettement plus rapide que le processeur qui, lui, vaut beaucoup plus cher et beaucoup plus récent. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, le PyOpenCL nous a généré tout le code. Donc, une réduction pour 16 millions d'éléments, c'est, on va lui demander ce qu'il a fait. Et là, si on regarde le code, on a pas mal de code. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va grouper le problème par 256 valeurs. Et donc, au niveau tout à la fin, il nous reste une seule valeur. Mais il va grouper ça dans deux kernels différents. Le kernel numéro 2, il va réduire les valeurs de 256 à 1. Et le stage 1, il va travailler sur le même problème avec 256 donc au carré, c'est-à-dire 64 000. Et donc on a 64 000 threads qui sont lancés initialement. Et comme on était parti de 64 millions de... non, là j'ai une petite erreur. C'est donc on a 64 mégas de données, mais en fait chaque thread va traiter non pas un kilo élément, mais un kilo octet de données. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour voir la pyramide qui se passe. Et donc si on regarde le code source de l'autre kernel qui est utilisé, on voit que ça tourne aussi avec un workgroup size de 256. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Et donc, au total, on a 313 lignes de code qui ont été entièrement générées. Si on regarde le code, ça reste relativement lisible pour la métaprogrammation. C'est une des choses que j'apprécie avec PyOpenCL, c'est-à-dire qu'on peut inspecter comment ce que c'est fait. Et j'ai essayé d'écrire mes codes de réduction à la main et de faire mieux que ce que Andreas Klöppner générait, mais je n'ai pas réussi. Donc je vais finir avec un dernier exemple. C'est le scan kernel. Donc c'est un autre patron de programmation qui est assez intéressant. C'est ce qui permet de faire un CumSum et on va voir que ça peut être utilisé dans tout ce qui est algorithme de compression. Donc pareil, il nous faut une opération qui soit commutative. On va reprendre l'addition pour pouvoir comparer directement avec le CumSum de NumPy. Et donc, comme précédemment, on fournit le data type, le contexte, le data type. On fournit la signature de la fonction qu'on veut. Où on lit le tableau, quelle est l'expression qu'on va faire, donc ici A plus B, quel est l'élément neutre, et comment est-ce qu'on écrit en sortie. Puisqu'après, on peut avoir des différences d'index plus 1, moins 1, en fonction de ce qu'on veut faire. Et là, pareil, on obtient des résultats qui sont parfaitement bons. Je crois que la différence de temps d'exécution avec NumPy est assez intéressante là. Donc on est à 11 millisecondes contre 60 millisecondes pour. Et le problème qu'on utilise ici est encore relativement petit pour. C'est vraiment un petit jouet pour au niveau de la programmation GPU. Donc on voit, on a clairement un gros intérêt à utiliser le GPU pour faire ce genre d'opération. Et donc j'ai publié il y a quelques années un algorithme qui est pour la compression et la décompression d'images utilisé en cristallographie X, qui est entièrement basé sur un générique scan kernel avec la input expression et la scan expression qui est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, ça revient à écrire 5 lignes ici et 5 lignes ici pour faire tout un algorithme de compression de données qui, a priori, est assez difficilement parallélisable. Donc voilà, je vais conclure. PyOpenCL, ça permet d'accéder à la programmation GPU assez facilement. On n'a pas de vendor lock-in, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité aux cartes de chez NVIDIA. Je pourrais vous faire la démo là avec une carte AMD que j'ai sur ma machine ou sur le CPU. Le fait d'avoir Python, ça nous permet aussi de travailler dans Jupyter. Et donc là, ça permet de développer les kernels OpenCL directement dans Jupyter. Ça, je trouve ça très confortable. J'apprécie beaucoup depuis OpenCL qu'on ait le contrôle total du flux d'exécution et de la gestion de la mémoire. Beaucoup de gens trouvent ça rébarbatif. Ça doit même être surprenant pour quelqu'un qui fait beaucoup de Python, mais si on veut de la performance, il faut accepter d'avoir un peu de contrôle sur au moins ce qui est performance critical. On utilise PopenCL pas mal dans le projet Silex, donc il y a des reconstructions tomographiques, il y a des alignements d'images, donc il y a des analyses statistiques sur des images, des choses comme ça. PopenCL, ça marche pour des projets relativement gros. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça marche aussi sur CPU. Donc le code qui tourne sur GPU tourne aussi sur CPU. Et PopenCL, ben, vous avez vu qu'on accède au travail effectué via un événement, on n'a pas de problème avec le guild, donc on peut continuer à exécuter du code Python pendant que le code s'exécute sur tous les corps du CPU. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on a l'intégration continue, c'est-à-dire qu'avec un driver correct, celui de Intel fonctionne bien. On peut tester les codes GPU sur CPU et valider que le code est correct. Les performances ne sont pas mirobolantes, mais c'est très intéressant de pouvoir faire de l'intégration continue. Et on a des drivers qui sont entièrement open source, et ça, ça n'existe pas trop dans le monde CUDA. Donc les patrons de programmation en programmation parallèle sont relativement bien documentés. C'est important de les connaître, parce qu'en fait, quand on rencontre un problème, on est capable d'utiliser le bon outil, et ça permet de réduire la quantité de code à écrire via la métaprogrammation, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est pour ça que le travail d'Andreas Klöckner mérite vraiment d'être mis en avant. C'est lui qui est l'auteur de PopenCL et de PCUDA, et ça simplifie vraiment la vie des gens qui écrivent du code parallèle, enfin du code pour les GPU. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a un peu de temps pour les questions.
Oui, il y avait une question sur les mesures de temps sur GPU. Et c'était demandé, est-ce que dans le temps qui est restitué, le temps de transfert est-il compté?
Alors, ça dépend. Ça dépend. Et en fait, les temps d'exécution mesurés au niveau des profilers de NVIDIA et de OpenCL ne sont pas complètement les mêmes. Alors, je vais prendre quelques exemples. En fait, quand on utilise la métaprogrammation, je vais prendre le premier kernel. Donc, cet événement-là correspond à l'exécution de ce kernel. Et donc, le temps d'exécution, c'est pour cet événement-là. C'est le temps d'exécution de la programmation. Par contre, quand on va faire res.d.get, donc ça ça va appeler l'équivalent d'un CUDA même copie. En fait, il va aussi y avoir un événement généré, et cet événement, il a aussi une certaine latence. Donc ce temps d'exécution là, c'est sans la récupération. Après, le temps pris pour la récupération, je ne sais pas si on peut récupérer directement la valeur, mais en gros, on connaît la taille du buffer à transférer, on connaît la vitesse de transfert, et voilà, ça se mesure. Donc ici, donc dans ce cas-là, cet événement-là, la mesure se fait uniquement le temps de calcul sur le GPU. Non, c'est pas là. Décidément. Voilà. Si on prend la réduction, on a vu que la réduction, en fait, elle se fait avec deux kernels successifs. En fait, PopenCL ne nous rend que le résultat final. Et donc le résultat final, Non, je crois qu'il est encore sur GPU. Là, le résultat final, il reste sur GPU. Par contre, quand on va faire la mesure du temps d'exécution, faut qu'on le fasse avec timeit parce qu'en fait, on a plusieurs kernels qui vont s'exécuter l'un derrière l'autre. Et puis OpenCL nous donne que enfin, si on lui demande l'événement, il nous donne que le dernier événement, celui qui permet de faire les synchronisations, mais il ne permet pas de faire le profiling. Donc, ici, on transfère uniquement le dernier élément. On a le code source. Et donc pour celui-ci, donc là-dedans, il n'y a pas le transfert non plus, puisque ce qui ressort, c'est un tableau. Si je fais un print. Donc voilà, le temps de transfert n'est pas inclus.
Alors, dans la question de Mathieu, en fait, c'est toujours pas très clair, mais je pense que peut-être il faut
Alors,
expérimenter différents outils de profiling, quoi,
voilà, les
et
mesures de temps
voir.
GPU prennent en compte les temps de transfert? Non.
C'était la question de Mathieu.
Ça me paraît toujours assez obscur. Ben. Si on voulait comparer ce que je peux faire un comsum machin au lieu de faire je fais point get. Donc je sais déjà plus le temps que j'avais. Donc voilà. Donc la première ligne ici, elle va exécuter juste le calcul. Bon, ça plante.
Ça, c'est l'effet
Ah,
des
pardon.
mots.
Oui.
C'est vrai que dans les outils de profiling, surtout aussi avec les outils magiques de Python, en fait, il y a
Ouais.
souvent quelquefois des effets de cache qui fait qu'en fait, quand on fait une fois une
Non, là, il
interrogation,
n'y aura pas.
il n'y en a pas.
Là,
Okay. Donc, c'est simplement juste qu'il traite juste le dernier élément qui est donné, et donc ce n'est pas une statistique sur l'ensemble.
Voilà.
Oui.
Donc là, on a 11 millisecondes de temps d'exécution. Et donc là, on a 24 millisecondes pour le calcul plus la récupération des données. Donc, par contre, si je fais le profiling uniquement sur le rest.get, il y aura sans doute un mécanisme de mise en cache. Et donc là, ça permet de dire qu'il y a 13 millisecondes de transfert. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme, ces
D'accord.
13 millisecondes de transfert,
Oui.
mais c'est possible.
D'accord. Bon, chacun va de toute façon, enfin, devoir expérimenter son profiling. S'il y a une autre question de type un profiling un peu, mais du coup sur la mémoire, il y avait une autre question sur l'apprentissage avec des conseils. Alors, les participants se répondent aussi un peu entre eux. Et puis, une autre question qui concernait plutôt les patterns, en fait, que tu avais présenté, notamment la réduction, avec le fait que ce soit pas forcément reproductible. Donc, je propose juste qu'on poursuive sur le profiling avec les aspects mémoire, puis après, on remonte sur la reproductibilité, puis en dernier, des petits conseils pour démarrer, peut-être à partir de ce que Clément demande. Donc, il y avait la question de Pierre qui était est-ce qu'il est possible d'avoir un contrôle sur la mémoire GPU utilisée? Donc l'accès au registre, la mémoire partagée, quand on définit les variables dans les kernels.
Oui, tout à fait. Alors, quand on définit. Alors, je vais reprendre un kernel. Alors, prendre un plus simple. Donc, là, j'ai mon kernel le plus simple. Donc, là, on voit qu'on utilise On utilise un entier, on utilise un nombre flottant. Donc on va rapatrier ça. Donc là, on a un registre, deux registres, trois registres. On aura peut-être un quatrième qui va être utilisé avant de le stocker dans RES. Donc ça, c'est donc pour la partie registre. Alors, quelque chose que je vous ai. Peux bien revenir tout au début. Il y a POCL. Donc là, on va passer en mode. En fait, POCL permet d'exposer les GPU NVIDIA. Il y a quelques années, NVIDIA a enlevé la possibilité d'utiliser les profilers NVIDIA sur le code OpenCL. Et en fait, la POCL, en fait, il va exposer les GPU de la même façon qui serait fait avec Numba CUDA. Et donc, en utilisant ce kernel, ce driver-là, le driver de OpenCL, on est capable d'utiliser les outils de profiling de NVIDIA, c'est-à-dire NVProf, NVVP et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, on peut faire tourner donc NVProf, mon bout de code. Et donc, l'outil NVProf ou NVVP permet ensuite d'avoir accès directement au nombre de registres, à la quantité de mémoire partagée, à la vitesse d'utilisation de toutes les bandes passantes internes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour la partie profiling de la mémoire. Pour la déclaration de la mémoire shared, on a deux façons de faire. Donc là, je prends un kernel. On a une façon qui est alors démo total, on dit shared int plutôt de 12. Donc ça serait, alors c'est pas, parce qu'il y a un double, enfin bon, il y a une façon de déclarer. Non, tu veux pas. Donc, il y a une façon de déclarer la mémoire partagée comme ceci. Alors, il faudrait que je regarde dans mon code comment est-ce que on fait.
Jérôme,
Oui.
merci Pierre. Il dit que de toute façon, il regardera effectivement la doc. C'est vrai qu'en direct live, comme ça, en fin de
Ouais.
présentation, c'est un peu chaud à faire.
Sinon, il y a moyen de dire que c'est de la shared. On peut dire un float étoile, donc SHM. Et donc, avec le mot-clé shared, on peut dire qu'on va avoir une quantité de mémoire partagée. Cette mémoire partagée, par contre, il faut la créer au niveau de PyOpenCL. Donc, c'est PyOpenCL.localMemory où on lui donne la taille en octets de la quantité de mémoire qu'on envoie et on passe un paramètre supplémentaire dans la signature de la fonction. Et ensuite, on peut utiliser cette mémoire qui est partagée entre tous les threads d'un même workgroup.
Merci. Il y avait une question donc sur les algorithmes, enfin disons sur les méthodes qui pouvaient permettre d'avoir des opérations. Là, tu avais présenté sur les patterns avec un exemple sur la réduction, mais du coup qui fait que ben, les opérations ou les résultats sont pas reproductibles au bit près. C'est inhérent au calcul parallèle. Et du coup, il y avait une petite
C'est
question
surtout
sur
inhérent.
les algorithmes. Ouais.
C'est surtout inhérent au calcul à la norme IN32754. C'est surtout ça. Alors, par contre, l'ordre des opérations, elle est difficile à garantir.
Voilà.
C'est pour ça qu'on a besoin que les opérations soient commutatives et le fait qu'elles ne soient pas complètement commutatives fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats.
Voilà, alors donc il y avait Nicolas qui avait répondu, c'était une question posée par Yago, et Nicolas avait cité quelques algorithmes qui permettent du coup de garantir un peu plus une reproductibilité au bit près et du coup qui nécessite aussi d'abandonner un certain nombre de performances. Donc c'était la question initiale d'Iago
Alors,
par
ça,
rapport à
c'est quelque chose qui est assez intéressant de noter. Si on revient sur la réduction, donc là, la réduction, il faut bien se rendre compte qu'on va charger donc 64 mégaoctets de données pour finalement effectuer qu'une seule opération avec chacune des données. Si on voulait calculer la somme, on pourrait le faire de manière série en disant 9 plus 2 plus 1 plus 7 et ainsi de suite. Et en fait, on a le ratio quantité de calcul sur bande passante pour une réduction qui est extrêmement mauvais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se rendre compte. On a vu que les GPU, c'était des machines, des systèmes qui avaient des latences relativement élevées. Et en fait, il leur faut beaucoup de calculs en parallèle pour cacher cette latence. Et donc, il faut bien se rendre compte que sur une réduction, et sur la plupart des calculs qu'on effectue, on utilise assez mal la puissance de calcul disponible des GPU. Et on est en permanence en train d'attendre que les données arrivent. Donc, faire une compensation d'erreur pour les calculs qui sont faits, moi j'ai mesuré des dégradations de performance de l'ordre de quelques pourcents. De passer d'une arithmétique simple à une arithmétique compensée, où en fait on va faire 4 ou 8 fois plus d'opérations numériques, parce qu'en fait on va le temps GPU est de toute façon perdu à attendre les données. Donc finalement, c'est pas très très grave de faire des calculs plus compliqués.
Oui. Donc, dans la réponse qui avait été donnée, Nicolas avait cité les algos. De toute façon, le pad, hein, vous pouvez le conserver. Je regarde juste vite fait si tu as de nouvelles questions par rapport à le plan que je t'avais donné, puisqu'on a déjà 10 minutes de dépassement. Et. Du coup, est-ce qu'on peut venir à la question sur des conseils pour démarrer l'apprentissage de Pi OpenCL? Et puis ensuite, il y a une petite question sur NumaCuDa, NumaRock, PiCuDa et la métaprogrammation que peut-être tu pourrais prendre en tout dernier.
Alors pour les cours, alors un bon cours de OpenCL, je veux dire, c'est faut séparer le langage de programmation, à mon avis, de l'algorithmique parallèle. Parce que le langage de programmation, j'ai dit au début, ça me paraissait bizarre d'écrire des kernels en NumaCuDa qui est écrit en Python, mais c'est Pas, on s'y adapte très 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 facilement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est designer l'algorithme parallèle. C'est penser en termes de réduction, de scan, de qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va exploiter un maximum la puissance de calcul des GPU et leurs bandes passantes qui sont disponibles. Et donc, une fois qu'on a, entre guillemets, designé l'algorithme, l'implémenter en CUDA ou l'implémenter en OpenCL, c'est pas trop un problème. Au niveau des ressources, il y a quelques années, il y a Nvidia qui avait fait une formation, enfin qui avait sponsorisé une formation Udacity. Et c'est celle que j'ai trouvée la plus pertinente au niveau de la programmation parallèle. En gros, il y avait 2 heures de cours sur chacun des patrons que j'ai présentés là, sur les réductions, sur les scans. Il y en avait deux, trois autres. Alors, elle s'appelait CS344 à l'époque, mais je sais qu'elle est plus disponible et il y a quelqu'un qui l'a rassemblée, mais faut que je retrouve. Donc, toutes les vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Par contre, la formation structurée, comme elle était présentée par la plateforme Udacity, elle est plus disponible directement. Mais il y a toutes les vidéos assemblées dans un channel YouTube qui sont disponibles quelque part, mais faut que je fouille dans mes bookmarks pour retrouver ça.
Merci. On a déjà
Alors,
bien.
NumaCuDa. Alors, NumaCuDa, je crois que j'avais mis que ça supportait la réduction. C'est sans doute que j'ai vu qu'il y avait moyen de faire des réductions dans Numbacuda. Ah non, c'est dans Coupaille qu'il y a la réduction qui est intégrée. Donc dans Numbacuda, je n'ai pas trouvé qu'il y avait moyen de faire des réductions. Alors, Numba ROC, donc ça c'est ROC, c'est la version AMD de Numba. C'est sans doute la même chose puisque c'est à peu près la même partie haute. Picuda, oui, Picuda supporte la métaprogrammation de la même façon que PyOpenCL. C'est assez proche. Vu que c'est le même auteur, y a souvent pas grand-chose. Les signatures des fonctions sont à peu près alignées. C'est assez direct de traduire de Numba vers de CUDA, PyCUDA vers PyOpenCL ou vice-versa.
Merci Jérôme.